Le journal est présenté par Lou Momège. Bonjour Lou.
Bonjour Quentin Lafay, bonjour à toutes et à tous. On connaît désormais les noms des 30 premiers candidats de la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes. Beaucoup sont reconduits, mais de nouvelles têtes ont fait leur apparition, notamment celle du sapeur-pompier Grégory Allione, portrait dans quelques instants. Elle a contrôlé 65 000 sociétés et sites internet en 2023. La DGCCRF a rendu son rapport de l'année passée et son mode de recrutement va évoluer. Il faut désormais faire un stage dans l'entreprise avant d'y entrer. Les campus du monde occidental s'embrasent en soutien à la Palestine. Hier encore, des militants manifestaient devant de grandes écoles françaises, notamment Sciences Po Paris, un mouvement qui a pris racine aux États-Unis, exemple à l'université de Berkeley. C'était une mesure attendue par les écologistes sénégalais, la suspension des travaux sur le littoral de Dakar, mesure qui laisse toutefois des dizaines d'ouvriers sur le carreau. Le camp présidentiel a dévoilé hier soir les 30 premiers noms de sa liste pour les européennes. Avec un peu de retard certes, mais on le sait désormais, de nombreux eurodéputés sortants sont reconduits, notamment Bernard Guetta, Marie-Pierre Védrenne ou encore Pascal Canfin. Ils complètent le quatuor derrière la tête de liste Valérie Ayer. Une surprise toutefois, c'est la nomination de Grégory Allione, figure des sapeurs-pompiers, désignée en 8e position. Rosalie Lafarge.
Pompier volontaire à 17 ans, professionnel 8 ans plus tard, Grégory Allione, la cinquantaine passée aujourd'hui, gravit ensuite tous les échelons. Il commence dans le Var, chez lui, chef du centre de secours principal. Après un tour par le ministère de l'Intérieur, conseiller sécurité civile sous Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve, il prend la tête des pompiers des Bouches-du-Rhône, puis de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avant d'être nommé, il y a un an et demi, directeur de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 30 ans au service des autres, avec un mot d'ordre, l'engagement, il en tirera un livre co-signé alors avec l'homme politique Olivier Richefou. L'engagement comme la politique n'ont de toute façon jamais été très loin, souligne un ami de Grégory Allione. Il se souvient de leurs jeunes années militantes dans le Sud vers 1990, au centre-droit, tendance Léotard-Madelin. Il a toujours eu cette fibre politique, insiste encore ce parlementaire, qui se rappelle l'avoir vu faire ses premiers pas en la matière autour d'Hubert Falco, l'historique maire de Toulon. Une suite logique, veut-il donc croire, appuyée par un autre macroniste des Bouches-du-Rhône. Allione, c'est un bon profil, un vrai politique qui en fait en quelque sorte depuis toujours, même si ce n'est pas de façon partisane ces dernières années. Très bonne prise, applaudit encore un parlementaire qui loue les qualités d'orateur du colonel quand une eurodéputée se réjouit de son expertise de la sécurité civile. Jusqu'à ce qu'un cadre du parti l'admette tout de même, les pompiers, il y en a 250 000 en France, électorat non négligeable et jusqu'ici non acquis. Après tout, quand il y a urgence, sourit-il, ce n'est pas idiot de faire le 18.
De Rosalie Lafarge. Le candidat à tête de liste du Parti communiste, Léon Desfontaines, lui multiplie meetings et déplacements pour tenter de se faire connaître. Il participait hier au banquet des communistes du Val-de-Marne où Sophie Delpont l'a rencontré, décryptage de la stratégie du candidat communiste.
Pour Léon Desfontaines, l'objectif, c'est de placer la question sociale au centre du débat politique à gauche.
Cette élection européenne, elle doit parler du pouvoir d'achat, elle doit parler de nos quotidiens. La stratégie, c'est de justement retirer la couverture vers la question sociale et obliger les autres têtes de liste à se positionner sur la sortie du marché européen de l'électricité pour diviser par 3 les factures d'électricité, sur la réindustrialisation de notre pays. Et je pense que ça sera le meilleur moyen de faire de cette élection européenne une élection qui intéresse les Françaises et les Français.
Fustigeante au passage, la stratégie des Insoumis d'un côté et des socialistes de l'autre.
J'étais en porte-à-porte à Amiens il y a une semaine et chaque Amiénois me parlait de la hausse des factures d'électricité, des bas salaires. Personne ne me parlait de la question palestinienne ou de l'Ukraine.
Le candidat tête de liste communiste souhaite aussi contrer l'envolée du Rassemblement national.
La priorité, c'est d'abord de déconstruire le discours du Rassemblement national comme quoi il serait le parti qui défendrait les travailleurs. Il n'en est rien, ils ont aujourd'hui 88 députés à l'Assemblée nationale. Leurs députés, main dans la main, ont voté avec les macronistes contre l'augmentation des salaires, contre le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Même le parti qui se dit défenseur de la ruralité a voté main dans la main avec les macronistes contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux.
Léon Desfontaines a par ailleurs publié en ligne une lettre ouverte à une électrice du RN dont le témoignage sur sa détresse sociale dans un reportage de TF1 est devenu viral sur les réseaux sociaux. « Vos paroles me hantent », lui écrit le candidat communiste qui l'encourage à ne pas céder au discours de faussaire du Rassemblement national selon ses mots. En multipliant les actions, Léon Desfontaines espère faire mentir les sondages qu'il évalue encore aujourd'hui en dessous des 5% d'intention de vote.
En 2019, la liste communiste n'avait réuni que 2,5% des suffrages. Un message devra bientôt figurer sur l'emballage d'un produit dont la quantité a été réduite, une mesure décrétée ce matin au journal officiel pour lutter contre la réduflation ou shrinkflation, technique utilisée par les supermarchés pour continuer à vendre un produit au même prix tout en réduisant ses quantités. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet. Plus de 49 millions d'euros d'amendes administratives, voilà ce qu'a collecté l'an passé la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Son bilan 2023 a été publié hier et la ministre déléguée aux entreprises, Olivia Grégoire, en a profité pour rappeler une mesure présentée il y a 10 jours dans le cadre du plan de simplification des entreprises. Marie Vienneau, les nouveaux agents devront désormais faire un stage à la DGCCRF avant d'être embauchés.
Un stage en entreprise avant toute prise de poste, c'est l'idée portée par le plan de simplification pour les entreprises et qui s'appliquerait donc aux nouveaux agents de la DGCCRF. Or, pour passer le concours, ils ont minimum un bac plus 5 et ont déjà fait des stages. Certains viennent même du privé et connaissent donc déjà l'entreprise de l'intérieur, réagit Jean-Philippe Simon, secrétaire général CGT de la DGCCRF.
C'est un gadget complet. Pourquoi pas, dans le cadre de la formation continue, qu'on s'intéresse, par exemple, à des nouvelles formes d'entreprises, les entreprises de vente par Internet, les gros stockers. Mais alors, il faudrait cibler. Et ça n'a aucun intérêt qu'ils aillent dans une entreprise traditionnelle.
Un point de vue opposé à celui de la directrice générale pour qui ce stage a déjà existé et pourrait être utile dans le cadre des nouvelles missions des agents. Sarah Lacoche.
Je pense que c'est utile de remettre en place un stage. Ils seront amenés à être en contact avec des entreprises, soit pour leur expliquer comment se mettre en conformité quand on est plutôt sur une pratique qui est pédagogique, quand c'est de la mise en place de nouveaux textes, mais aussi parfois pour les sanctionner. Et je pense que c'est de toute façon de bonne pratique de bien connaître les entreprises et de bien comprendre quelles sont leurs préoccupations et aussi difficultés.
Comprendre les entreprises, les aider, faire de la pédagogie. Le gouvernement entend depuis quelques années confier aussi ses missions aux fonctionnaires chargés du contrôle. Or, c'est un mélange des genres dangereux auxquels se sont déjà opposés les syndicats de la DGCCRF et que l'on voit donc revenir par la petite porte par le biais de ce stage. Un stage que devraient également faire les nouveaux inspecteurs du travail, des impôts, de l'URSSAF et des douanes.
Cette année, la DGCCRF va porter une attention particulière au secteur du tourisme, notamment à l'hôtellerie-restauration, en prévision des JO de Paris. 4000 contrôles ont déjà été effectués sur les 10 000 prévus.
France Culture, il est 8h07, le journal Lou Momège, et les États-Unis n'accepteront pas une attaque israélienne sur Rafah.
Selon le secrétaire d'État américain, Israël n'a aucun plan pour protéger les civils, alors que Benjamin Netanyahou réaffirme sa volonté d'anéantir Rafah au sud de Gaza. Anthony Blinken maintient toutefois que le Hamas reste le seul obstacle pour un cessez-le-feu. Le Hamas se rend pourtant au Caire aujourd'hui et retrouvera les médiateurs égyptiens, qataris et américains pour tenter de trouver un accord de paix. Les dirigeants du mouvement islamiste se disent déterminés pour obtenir un retrait de l'occupation israélienne, mais aussi de négocier un échange de prisonniers. La guerre à Gaza continue d'enflammer les universités du monde, en France notamment, où plusieurs écoles, dont Sciences Po Paris et Sciences Po Lyon, ont annoncé leur fermeture la semaine prochaine pour éviter tout débordement, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le mouvement est parti de Columbia à New York et il touche désormais de nombreux campus partout à travers le pays, jusqu'à l'ouest, comme l'université de Los Angeles, évacuée par la police jeudi, ou Berkeley, près de San Francisco. Et Sébastien Paour, la situation est plutôt calme pour le moment sur le campus.
Les tentes de toutes les couleurs sont plantées devant le Sproul Hall, le bâtiment principal de Berkeley. On a commencé avec 30 tentes, on est maintenant à plus de 150, peut-être 175. Yazen Kaslan est le porte-parole du jour pour ce camp Palestine. On est en pourparlers avec l'université, on croise des doigts, elle est à l'écoute. Ils sont en train d'examiner en détail les quatre demandes qui sont résumées ici. Elles sont sur une banderole sur la façade du bâtiment, notamment la fin des investissements de l'université en lien avec Israël et la fin du silence sur ce qui se passe à Gaza. Ce qui nous amène ici, c'est le carnage, les bombes qui sont larguées, le carnage qui se poursuit. Ici, pas d'affrontement avec la police depuis bientôt 2 semaines. L'histoire de New York, interpellation et fouille est bien connue.
Ici, la culture policière est très différente. On a de la chance. Les flics voient à quel point le mouvement est pacifique. Mais l'étudiant en deuxième année de doctorat d'économie regrette l'attitude de Joe Biden et son discours jeudi. Sur ce que peut faire le commandant en chef, c'est embarrassant. Son incapacité à prendre des décisions. La jeune génération en a assez de l'hypocrisie des personnes âgées qui sont dans les institutions aujourd'hui. Les temps changent. Il rappelle que le mouvement pour la liberté d'expression et la fin de la guerre du Vietnam est parti d'ici, dans les années 60, et que les étudiants avaient fini par obtenir gain de cause.
Sébastien Power, notre correspondant aux États-Unis. Une mesure emblématique au Sénégal, le président Bassirou Diomé Faye, élu fin mars, a ordonné la suspension de tous les chantiers en cours sur le littoral à Dakar, le temps de les auditer. La presqu'île sur laquelle est construite la capitale subit une importante pression foncière et étouffe sous le béton depuis une vingtaine d'années. Les environnementalistes demandaient cet arrêt, mais de nombreux ouvriers qui travaillent sur les chantiers se retrouvent au chômage du jour au lendemain, Juliette Dubois.
Vendredi matin, la voiture du président Bassirou Diomaye Faye et son cortège sillonnent la corniche de Dakar et passent devant les différents chantiers. Le président vérifie que les tractopelles et les grues sont bien à l'arrêt, suite à la mesure prise pour mettre en pause toutes les constructions sur cette zone maritime protégée, le temps de vérifier leurs autorisations. Cette suspension est une bonne nouvelle pour les Dakarois comme Koura, qui ne reconnaît plus la ville dans laquelle elle a grandi.
Il fut un temps où tu es dans ta voiture et tu as l'air pur, tu respires, tu vois la plage. Ça faisait plaisir de rouler sur la corniche de Dakar. Mais aujourd'hui, tu roules, tu es entre le ciment et le fer.
Moi, je pense que c'est une pertinente décision parce que le littoral est un bien commun. Donc, on ne peut pas venir comme ça vendre le littoral à des gens qu'on ne connaît même pas.
L'arrêt des constructions était aussi une demande des défenseurs de l'environnement. La bétonisation des falaises et des plages a des effets directs sur les sols, comme l'explique Alioune Sané, responsable des écologistes du département de Dakar.
Quand vous creusez, vous dérangez le sol. Ensuite, vous facilitez l'avancée de l'eau, de la mer, ce qu'on appelle l'érosion côtière.
Il faut éviter l'urbanisation sauvage, il faut éviter le désensablement.
Les bâtiments bloquent également les vents qui viennent rafraîchir la grande métropole. Sur un grand chantier arrêté, des employés sont privés de travail depuis mardi et sont en colère.
L'essentiel de nos chantiers, tout notre chantier, presque on est à terre. Si on ne travaille pas, est-ce qu'on va être payé? Ils nous amènent au chômage.
Pour Alioune Sané, les responsables ne sont pas uniquement les promoteurs immobiliers, mais aussi les autorités qui ont donné les permis.
S'il y a toutes ces constructions, c'est parce que l'urbanisme a donné l'autorisation. On a un président qui vient des impôts et domaines. Ils n'ont qu'à régler ça à leur niveau déjà, pour voir qui est à l'origine de tout ça.
Des procédures judiciaires pourraient être engagées entre les promoteurs et l'État.
À Dakar, Juliette Dubois. Alors qu'une vague de chaleur meurtrière frappe en ce moment l'Asie du Sud et du Sud-Est, le Vietnam a battu d'inquiétants records au mois d'avril, sans record de température selon les données du service météorologique local. Le mercure a même atteint 44 degrés dans deux villes en début de semaine, température qui se rapproche du record national historique de 44,2 degrés. C'est une situation qui piétine dans la péninsule de Noto. Le 1er janvier dernier, un puissant séisme suivi d'un tsunami gâchait les fêtes du Nouvel An au Japon. Des intempéries qui ont fait 250 morts dans la plus grande péninsule du pays. 4 mois plus tard, les habitations saccagées n'ont pas bougé, les travaux stagnent, au point que les localités se vident. Reportage de notre correspondante Karine Nishimura sur le site touristique Wakura Onsen de la municipalité de Nonoa.
D'habitude, début mai, Wakura Onsen regorge de familles japonaises en vacances. Mais cette année, personne, une des rares habitantes, est dépitée.
Wakura Onsen, c'était réputé, mais maintenant, c'est une ville fantôme.
La quarantaine d'hôtels traditionnels et leurs bains qui font la renommée des lieux sont tous fermés, saccagés par le séisme du 1er janvier dernier.
Pas de boulot, les jeunes sont partis. Ils travaillaient tous dans les hôtels, mais comme ils sont tous foutus.
Même 4 mois après, il n'y a quasiment pas de travaux, pas d'ouvriers, pas d'engins de chantier.
Les routes ne sont pas réparées, ils ne construisent pas non plus de logements temporaires ici.
Un chauffeur de taxi nous confie la raison de cette situation.
Les grandes entreprises de BTP s'occupent des chantiers de l'exposition universelle de 2025 à Osaka. Du coup, il n'y a pas assez de main-d'œuvre.
Contacté par téléphone, la mairie confirme.
En effet, difficile de dire que ce n'est pas lié. Il manque du personnel pour les travaux et en plus les formalités pour obtenir l'aide de l'État sont complexes.
Nul ne sait quand débutera la reconstruction ni combien de temps elle durera.
J'ai entendu dire plusieurs années, c'est très inquiétant. Il n'y a plus d'emploi tant que les hôtels et logements ne sont pas réparés. Ceux qui voudraient revenir ne le peuvent pas. Beaucoup sont partis chercher du travail ailleurs et démarrent une nouvelle vie.
La situation est encore pire dans des villes plus au nord de la péninsule de Noto.
Karine Ishimura, correspondante pour France Culture au Japon. La météo en France, ce n'est pas une matinée printanière qui s'annonce. De la pluie et des nuages sur tout le pays. Seuls Cherbourg et Lille apercevront quelques petits rayons de soleil. Pour les températures, il fera 17 à Biarritz, 15 à Perpignan et Nice, 10 à Limoges et Reims et 8 à Aurillac.